France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. 2 mois à peine après l'instauration d'un fragile cessez-le-feu, Israël a décidé la nuit dernière de reprendre ses frappes meurtrières sur Gaza. L'attaque surprise a fait au moins 413 morts. Nous serons en direct de Jérusalem dès le début de ce journal. On s'intéressera par ailleurs aux nouvelles tensions diplomatiques accrues entre Paris et Alger. On reviendra également sur l'évacuation musclée ce matin par les forces de l'ordre de centaines de jeunes migrants à la Gaîté Lyrique, en plein cœur de la capitale. Enfin, avec notre invité, on parlera du mouvement de grève des enseignants à l'école de sciences politiques de la Sorbonne et plus largement de la mobilisation des chercheurs face aux coupes budgétaires dans les universités. Voilà plusieurs jours déjà que le bruit s'était répandu comme une traînée de poudre. Benjamin Netanyahou, fort du soutien de Donald Trump et sous la pression des factions extrémistes de sa coalition, allait-il reprendre sa guerre de destruction massive sur Gaza? Eh bien, la réponse a finalement été apportée avec fracas la nuit dernière lorsque l'État hébreu a décidé de rouvrir, selon ses propres termes, les portes de l'enfer sur l'enclave palestinienne avec des frappes sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On parle d'au moins 400 morts, dont de très nombreux civils, selon le mouvement islamiste qui dit avoir perdu également dans ses frappes 4 de ses dirigeants. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, tôt ce matin, l'armée a encore ordonné aux Gazaouis d'évacuer les zones frontalières. Comment Thibault, le gouvernement israélien, justifie-t-il sa décision ?
Eh bien, la première explication, Thomas, c'est selon le ministre de la Défense, Israël Katz, le refus du Hamas de libérer les otages. Et puis, la seconde explication est liée, pour cette fois, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, à la stratégie agressive du nouveau chef d'état-major. Il s'appelle Eyal Zamir. Et il a son plan de pression progressive sur le Hamas et les populations civiles. Alors, il y a eu d'abord la suspension de l'aide humanitaire. Puis, la semaine dernière, la coupure totale de l'électricité. Et il y a depuis cette nuit, ces bombardements et peut-être bientôt le retour des combats au sol. Israël exige, avec le soutien américain, que le Hamas libère les otages selon les termes qu'il a redéfinis unilatéralement début mars. Jusque-là, le Hamas a refusé, exigeant d'appliquer l'accord tel qu'il avait été arrêté mi-janvier. Mais la situation pourrait changer. Selon la chaîne saoudienne Al Arabi, les médiateurs font pression en ce moment même sur l'organisation islamiste pour qu'elle libère des otages et espère ainsi le retour du cessez-le-feu.
Alors la décision de rompre au moins de manière temporaire la trêve interroge sur la stratégie du gouvernement Netanyahou qui prend ici le risque d'exposer les otages israéliens encore aux mains du Hamas à un destin incertain. Les familles d'otages sont d'ailleurs en colère. Elles ont appelé ce matin, Thibault, les Israéliens à sortir dans la rue.
Et appel suivi à Jérusalem devant la Knesset, c'est le Parlement israélien, par des dizaines de manifestants comme Irit. Elle est arrivée une demi-heure après avoir vu un message sur les réseaux sociaux.
Je suis venue pour apporter mon soutien aux familles d'otages. J'ai peur qu'avec ce que le gouvernement fait, leurs proches soient tués. C'est le combat le plus important.
Un combat pour les otages donc et contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui échappe aujourd'hui à une nouvelle journée de comparution devant le tribunal qui le juge à Tel Aviv pour corruption et qui évite des débats chaotiques sur sa tentative de limogeage dimanche dernier du patron des services secrets intérieurs. Efrat est dans une colère noire.
Ça ne concerne pas seulement nos otages, mais aussi des Palestiniens innocents. Regardez le timing. C'est une décision cynique de Benjamin Netanyahou. La seule chose qu'il peut faire pour sauver sa peau, c'est de recommencer la guerre. Il a tellement de sang sur les mains.
Il a 412 morts depuis cette nuit, Thomas, selon le ministère de la Santé de Gaza, lié au Hamas. C'est 4 fois plus qu'en 2 mois de trêve.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Alors après ces frappes massives sur la bande de Gaza, la Croix-Rouge s'inquiète de ce que de très nombreuses structures de santé sont à présent débordées. Et bien entendu, Étienne Monin, cette attaque a vite fait de replonger la population palestinienne dans l'angoisse.
Les frappes ont touché les principaux secteurs de l'enclave. L'ampleur du bilan de sources gazaouis rappelle les moments les plus intenses de la guerre. C'est ce qu'a ressenti Noureddine. Il a regagné son logement dans la ville de Gaza il y a quelque temps, après avoir été déplacé pendant des mois.
C'était une nuit difficile, parce que le bruit des bombes était très fort, comme pendant l'été dernier quand la guerre était intense. C'était soudain et fort. Presque tout le monde a eu un sentiment d'horreur et on ne savait pas quoi faire.
L'armée israélienne a aussi lancé un ordre d'évacuation qui touche plusieurs secteurs de l'est de Gaza. Asma Khan Younes ne fait pas partie des quartiers concernés, mais l'idée de devoir reprendre la route est un cauchemar, dit-elle.
Le plus dur, le plus difficile pour tous les citoyens ici, c'est de quitter les maisons. Je suis à côté de la fenêtre, je vois la rue, c'est tout vide, il n'y a pas de transport. Même si tu es obligé de quitter, tu vas y aller où ? Et tu vas y aller comment ? Et d'un autre côté, si tu vas rester chez toi, tu es en danger.
D'après un journaliste gazaoui, des écoles, des camps et des appartements ont été ciblés. Le Hamas a confirmé la mort de plusieurs hauts responsables de l'organisation dans cette opération.
Le léger vent d'optimisme qui avait fini par souffler sur la République démocratique du Congo s'est-il définitivement éteint hier soir? Le groupe armé anti-gouvernemental M23, qui avait pourtant indiqué envoyer une délégation pour prendre part à des négociations de paix aujourd'hui en Angola, a fait volte-face, compromettant ainsi les chances de cette énième tentative de résoudre ce conflit qui a déjà fait des milliers de morts.
Quand Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, ne cesse de rebattre les cartes de la géopolitique mondiale.
Ce matin encore, plusieurs médias contrôlés par les rebelles houthis ont fait état de nouvelles frappes américaines dans l'ouest du Yémen, autant d'attaques qui non seulement pourraient constituer une rupture avec la promesse de campagne du républicain de ne pas lancer son pays dans de nouvelles opérations militaires à l'étranger, mais pourraient également traduire la volonté de Washington de lier à présent trois dossiers complexes, les négociations israélo-palestiniennes, la question des houthistes au Yémen et le dossier du nucléaire iranien. En attendant, l'imprévisible président américain qui se targue d'avoir une relation privilégiée avec l'intransigeant maître du Kremlin tentera aujourd'hui de rallier son homologue russe à son projet de trêve en Ukraine. L'heure de cet appel entre Washington et Moscou n'a pas encore été précisée. Seule certitude, Vladimir Poutine a lui déjà posé des conditions jugées inacceptables par Kiev.
Quoi qu'il en soit, et face au revirement stratégique spectaculaire initié par les États-Unis et la Russie, l'urgence a fini par s'imposer pour l'Europe d'accroître son indépendance en matière de défense.
Et c'est ainsi que les députés allemands sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur un plan d'investissement géant, un tournant majeur pour le pays qui entend désormais dépenser sans compter pour se réarmer. Sauf que pour faire entrer la très rigoureuse Allemagne dans cette nouvelle ère de la dépense, il lui faudra amender sa loi fondamentale. Les débats au Bundestag sur cet assouplissement donc des règles d'endettement inscrites dans la Constitution ont commencé ce matin. Un vote est prévu dans la foulée.
12h37 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Quand le sujet historiquement délicat des relations entre Alger et Paris s'invite une nouvelle fois dans le débat politique français après la fin de non-recevoir opposée par l'Algérie à la liste de ses ressortissants expulsables fournie par la France, Bruno Retailleau a décidé d'une réponse graduée qui pourrait inclure notamment la réduction des visas de travail. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors sur cette gestion donc du dossier algérien, la droite dans sa très grande majorité soutient le ministre de l'Intérieur, contrairement à la gauche mais aussi au Rassemblement National.
Oui, et ce matin sur CNews, le président d'Horizon, Édouard Philippe, candidat à la prochaine présidentielle, estime que cette réponse graduée est la bonne réaction, mais il cherche tout de même à se distinguer de l'exécutif.
Il faut mettre un terme à ces accords de 1968, puisqu'ils prévoient un régime favorable aux Algériens. Je comprends qu'on y aille de façon graduelle, mais je pense qu'il faut être très ferme et fixer la ligne qui consiste à dire, si l'Algérie ne respecte pas ses obligations, alors il n'y a aucune raison de lui offrir un statut plus favorable. Aucune.
À l'extrême droite, qui considère désormais Bruno Retailleau comme une possible menace pour 2027, on met la pression sur le ministre de l'Intérieur, lui qui a laissé entendre qu'il pourrait démissionner s'il n'était pas entendu. Jordan Bardella appelle à mettre en œuvre sans délai la riposte graduée promise par le gouvernement. Engager le bras de fer ou se coucher, s'interroge Jordan Bardella. Agir ou partir, Bruno Retailleau est au pied du mur, selon le président du RN. Critique du ministre de l'Intérieur également à gauche, mais pour des raisons opposées. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, veut rester dans la diplomatie. Il appelle à un respect mutuel et demande à ce que l'on n'entre pas dans un bras de fer permanent visant, je cite, à valoriser un ministre de l'Intérieur en mal de notoriété. Olivier Faure qui dénonce une stigmatisation des Français ayant des racines en Algérie.
Merci Antoine Marette. Rétention allongée pour les étrangers dangereux et prestations sociales conditionnées à une durée de résidence. La droite sénatoriale lance à partir d'aujourd'hui ses grandes manœuvres sur l'immigration avec deux propositions de loi fidèles à la ligne de Bruno Retailleau, justement toujours en quête de résultats. En l'occurrence, le très droitier ministre de l'Intérieur critiqué par le Rassemblement National, mais aussi par son rival à l'élection à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, devrait malgré tout pouvoir compter sur la Chambre haute.
Jusqu'à hier encore, ils étaient près de 450 à occuper la Gaîté Lyrique.
Sauf qu'après l'annonce de l'évacuation par la préfecture de police, beaucoup avaient préféré quitter la salle de spectacle parisienne. Ce matin, ce sont tout de même près de 300 jeunes migrants qui ont été délogés par les forces de l'ordre. Une évacuation au départ relativement calme, avant que la dispersion devant le théâtre des migrants comme des militants ne se termine à un coup de matraque et de gaz lacrymogène. Reportage signé Simon Le Baron.
Des exilés, des militants allongés sur le trottoir, les yeux rouges, suffoquants, d'autres qui marchent en boitant.
Allô, pompiers !
Des exilés comme Aboulaye, venu de Côte d'Ivoire, il assure qu'il n'a pas encore 18 ans. Des militants comme Nine, venu le soutenir, lui et ses camarades, elle a 24 ans.
Les policiers, ils sont venus en violence, ils ont des coups de matraque, des gaz lacrymogènes, hein ? C'est inhumain.
D'un seul coup, ils ont décidé de séparer en deux tous les gens qui étaient devant la Gaîté Lyrique. Du coup, ça a poussé tout le monde et tout le monde s'est fait piétiner. Et c'est d'une violence qui est juste incompréhensible, quoi.
Et maintenant, la plupart de ces jeunes migrants ont refusé de monter dans les bus qui devaient les conduire dans des centres pour adultes en région, car ils expliquent que c'est ici que se trouvent leurs démarches administratives, leur parcours de santé et leur recours judiciaire pour obtenir le statut de mineur isolé. Alors maintenant, dit Yann Manzi, cofondateur de l'association Utopia 56, c'est le retour dehors.
C'est l'errance qui va continuer, c'est la rue et c'est cet accueil par le trottoir que nous dénonçons, en sachant qu'une bonne partie de ces jeunes, une fois qu'ils vont passer devant le juge des enfants après 6 mois, mois d'errance et de rue, vont pour une grande partie d'entre eux être reconnus mineurs. Le signal qui est donné, c'est regardez comment on ne vous accueille plus, ne venez pas.
Faute de mieux, l'association prévoit de leur distribuer ce soir des tentes pour les aider à supporter le froid.
Depuis hier, l'école de sciences politiques de la Sorbonne s'est déclarée en chômage technique.
Manière de dénoncer les coupes budgétaires majeures décidées par le rectorat. Une décision qui, selon les enseignants-chercheurs, mettrait en péril leur mission de service public. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre européen de sociologie de sciences politiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Très concrètement, comment ces coupes budgétaires donc se répercutent-elles sur vos activités de recherche et quelles sont ces missions de service public donc que vous craignez de ne plus pouvoir remplir à l'avenir ?
Oui, bah écoutez, merci pour cette invitation. Non, effectivement, ces coupes budgétaires, ça peut paraître parfois un petit peu abstrait. En l'occurrence, ici, il s'agit de 13 millions d'euros pour l'université parisienne. Mais quand on descend un petit peu dans les laboratoires, dans les bibliothèques, dans les écoles doctorales, en fait, ça veut dire très concrètement ne pas avoir les moyens d'acheter des livres ou de s'abonner à des revues, ce qui est tout de même le minimum pour se tenir au courant de l'actualité de la recherche. Ça veut dire aussi ne pas pouvoir financer pour les doctorants l'accès à des terrains proches ou éloignés. Ça peut aussi vouloir dire, pour les laboratoires, ne pas pouvoir organiser de colloques ou participer à des colloques internationaux. Donc, grosso modo, ça veut dire aussi, finalement, produire une recherche en mode dégradé, en quelque sorte. Et finalement, ceux qui vont payer le prix en premier de ça, bon, ce sont nos doctorants, la jeune recherche, et puis aussi évidemment nos étudiants hein, qui seront moins confrontés, je dirais, à des savoirs et à des connaissances qui sont à jour en quelque sorte des problèmes du monde.
Jusqu'à quel point ce mouvement est-il généralisé ?
Ben écoutez, ce qu'on vit effectivement à l'université parisienne, c'est quelque chose, que l'on vit de manière accélérée et aggravée, en quelque sorte, par rapport à ce qui est une évolution malheureusement assez banale de l'ensemble des universités. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que 60 des 70 universités publiques sont en déficit, étaient en déficit à la fin de l'année 2024. Donc, d'une certaine manière, on touche du doigt, je dirais, cette vraie fausse autonomie des universités hein, qui voient leur budget plombé en quelque sorte par des décisions de l'État, par exemple, pour augmenter le point d'indice. On ne peut que s'en réjouir, bien sûr, des fonctionnaires. Mais si ensuite ces nouvelles charges ne sont pas compensées, eh bien, c'est-à-dire dans des nouvelles recettes pour les universités, eh bien, on a un modèle qui est structurellement déficitaire et qui conduit finalement à ce qui nous est arrivé, nous, à l'Université Paris 1, c'est-à-dire que le budget est repris en main par le rectorat qui opère des coupes franches, je dirais même assez dures, et qui, d'une certaine manière, met en défaillance collective notre système universitaire et de recherche.
Comment faut-il comprendre justement cette transformation donc du modèle de financement de la recherche publique? C'est moins de dotation fixe et plus de financement par projet, c'est bien cela?
C'est-à-dire le discours, c'est effectivement du ministère notamment, c'est de nous dire, mais écoutez, allez chercher des ressources propres, allez chercher les financements européens, c'est comme ça que vous devez de plus en plus vous financer, y compris d'ailleurs pour les formations, y compris bien sûr aussi pour la recherche. Alors, donc participer à des appels à projets européens, etc. Alors moi, je pense qu'il y a deux points là qui sont un petit peu problématiques. Le premier, c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal de mettre en concurrence les universités pour ce qui relève en réalité de leur mission de service public, donc une sorte d'obligation de service en quelque sorte. Et puis la deuxième chose, quand bien même on souscrirait en quelque sorte à ce nouveau modèle par appel à projet, par financement européen, etc., c'est que finalement on n'est pas en condition, on n'est pas mis en condition de pouvoir participer à cette concurrence européenne, parce que précisément nos doctorants, comme je le disais, eh bien effectivement sont mis en difficulté pour accéder au terrain, pour faire leurs enquêtes, et puis nos équipes administratives sont fortement affaiblies, donc on n'est même pas, je dirais, véritablement en condition de pouvoir participer à cette concurrence européenne sur laquelle mise beaucoup, je dirais, le gouvernement français actuellement, le ministère en tout cas, pour que nous financions finalement nos activités ordinaires.
On a bien compris le risque qui existe aujourd'hui d'une plus grande polarisation, donc entre d'un côté quelques établissements qui parviendraient à décrocher des crédits et puis de l'autre tout le reste finalement de l'université. Depuis quand ce basculement est-il en cours?
C'est effectivement un processus au long cours, je dirais, depuis une série de lois sur l'autonomie des universités où effectivement il est question de ça. Et puis aussi, finalement, le pari de plus en plus net de dire que l'enseignement supérieur et la recherche, ça participe d'une politique de compétitivité dans laquelle, effectivement, doit s'inscrire l'État français, notamment à l'échelle européenne. Et on peut souscrire d'une certaine manière à cela, mais quand ça se fait au détriment, finalement, des missions essentielles, de la capacité de l'université à être cet espace de démocratisation, d'accès au savoir pour l'ensemble des étudiants, etc. Bon, on se rend compte que ce système est devenu contradictoire et on attend.
C'est bien compris. Merci beaucoup Antoine Vaucher, directeur donc de recherche au CNRS, directeur du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Le Conseil constitutionnel se penchait ce matin sur la question des peines d'inéligibilité avec exécution provisoire. En clair, l'application immédiate d'une peine alors même que l'appel est possible.
Oui, en réalité, les sages étaient appelés à examiner une question prioritaire de constitutionnalité posée par un élu local de Mayotte déchu de son mandat en raison de sa condamnation pénale. Or, hasard du calendrier, il se trouve que cette audience intervient quelques jours seulement avant la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Rassemblement National, une affaire dans laquelle le procureur a requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison dont de ferme, mais aussi 5 années d'inéligibilité avec justement exécution provisoire. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc suivi les arguments exposés ce matin, Anne, par les différentes parties.
Oui, du côté des requérants, on invoque le caractère disproportionné de l'exécution provisoire. Marion Goujon, l'avocate de Rachadi Sindou, l'élu mahoré, développe ainsi trois arguments. Tout d'abord, le droit à un recours effectif, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, ne serait pas respecté par cette disposition. Puis elle évoque l'impossibilité d'un retour en arrière si la décision était réformée par les juges d'appel.
Aucun texte actuellement ne prévoit la marche à suivre pour que l'élu relaxé récupère son mandat. Bien souvent, vu les délais de jugement en matière pénale, il aura entre-temps été remplacé. C'est le cas de M. Sindou. Le remplaçant devra-t-il démissionner ? Aucun texte ne le précise. Et même s'il parvient à récupérer son mandat, sa réputation, son honneur et donc sa carrière sont définitivement altérés.
Enfin, selon Maître Goujon, le choix de l'exécution provisoire n'a pas à être motivé par le juge. Or, au regard des conséquences, cela est contraire, selon elle, au droit à un procès équitable. Côté gouvernement maintenant, il n'y aurait pas d'atteinte au recours effectif, car le droit d'appel existe toujours. Et sur les conséquences d'une éventuelle infirmation de la condamnation, le représentant de l'État, Benoît Canguilhem, explique que la récupération du mandat est immédiate.
La décision du préfet déclarant l'élu démissionnaire d'office devient illégale au jour où la cour d'appel infirme la condamnation d'inéligibilité. Conséquence, le préfet est alors tenu d'abroger cette décision de démission d'office. L'élu municipal récupère son mandat.
Quant au fait que le juge ne motive pas son choix d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, Benoît Canguilhem rappelle que la QPC de ce matin ne portait pas sur cette question.
Merci Anne Fauquemberg. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ensoleillé sur les trois quarts nord du pays, légèrement plus voilé au sud avec même quelques pluies possibles sur les Cévennes. Quant aux températures, elles sont comprises entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumé. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.